êtes l'auteur de l'histoire vraie de l'homme qui cherchait le Yeti, c'est aux éditions Autrement. Vous êtes journaliste également, écrivain, vous avez écrit pas mal d'enquêtes de voyage. On reviendra sur l'histoire de cet homme dont vous avez suivi la trace et qui caressait le rêve fou de retrouver le Yeti, le fameux Yeti. Une bande dessinée, Le Loup des Mers, librement adapté du roman de Jack London par Riff Reeves, un album de toute beauté, une adaptation, alors vous direz à quel point elle est libre ou pas du roman de Jack London. Jack London qui a bercé notre enfance avec de très nombreuses aventures. Peut-être avez-vous mis l'accent sur des points plus particuliers dans cette bande dessinée, nous allons voir dans un instant. Et puis à côté de vous, Tim Séverin ou
Séverin.
Tim Séverin, Le Voyage du Brendan aux éditions Lebec. Il s'agit d'un voyage, alors justement, la jonction du voyage réel et du voyage imaginaire, elle est peut-être dans votre livre, on va voir ça dans un instant, puisque vous êtes parti sur les traces d'un voyage mythique, légendaire, quasiment comme une enquête policière, mais à vos risques et périls. Et puis, à côté de vous, Mark Siegel, Sailor Twain. Alors, est-ce que c'est une bande dessinée, un roman graphique? C'est un peu entre les deux. La sirène de l'Hudson, c'est aux éditions Gallimard. Alors là, on est vraiment dans le voyage imaginaire, puisqu'il s'agit d'une sirène recueillie à bord d'un bateau et qui va créer bien des ravages. Le voyage est-il toujours celui qu'on croit? Est-ce que c'est le voyage que nous incite à faire notre imaginaire, ou au contraire celui qui se fait justement sur cette fameuse rivière de l'Hudson? Nous verrons dans un instant. Et enfin, à mes côtés, Farid Abdelawab, Voyage imaginaire, on ne peut pas être plus dans le sujet que ça, de Jules Verne à James Cameron, c'est aux éditions Artaud. Vous êtes historien de l'art, donc c'est une réflexion à partir d'images.
Oui, c'est autant une mise en perspective historique qu'une analyse, que aussi une promenade amoureuse à travers les thèmes de l'imaginaire. Je suis passé par l'image pour faire l'ouvrage, parce que je tiens énormément, je fais principalement des volumes, donc des livres illustrés. Je cherche à ce que l'image ne soit pas simplement une illustration qui soit mise en parallèle du texte, mais qu'elle soit aussi fondatrice de la construction même de l'ouvrage. Et donc, parce qu'en fait, l'image, donc, qui est aussi construction imaginaire, nous donne souvent, moi en tant qu'écrivain, historien, etc., ça induit, en fait, ça peut induire une construction éditoriale. Et donc c'est très intéressant parce que quand on passe très concrètement, si vous voulez, depuis longtemps je voulais faire un livre sur le voyage imaginaire, je fais donc une grande recherche iconographique, je brasse des dizaines de milliers d'images et je vais créer des thématiques à partir de ces images. Et si je ne passais pas par les images pour créer mes thématiques, j'organiserais le livre différemment, donc j'aurais un point de vue différent sur la construction même de l'ouvrage. Et donc les images... vont, par leur aspect satellitaire, les groupes qui vont se construire d'eux-mêmes, qui vont perdurer à travers le temps, qui vont me désigner des grands modèles, des grands archétypes. Je sors d'une... On en parlait justement à une conférence précédente. De grands archétypes qui vont se développer au cours des siècles et qui vont perdurer à travers plusieurs genres littéraires, à travers plusieurs familles culturelles. Je vais pouvoir les reconstruire. Donc j'ai construit cet ouvrage en grande majeure partie avec des images et en reprenant sur le modèle de différents espaces.
Quand vous parlez d'archétype, est-ce que, par exemple, on peut dire que
Gulliver
est un archétype de ces images?
Alors, oui, il y a plein de choses qu'on va retrouver, mais il y a aussi, pour Gulliver, c'est un peu une histoire fondatrice, parce qu'elle est à la charnière, en fait, historiquement, de plein de choses qui sont très intéressantes. Je peux en dire un mot, parce que c'est vraiment passionnant, en fait. Pour Gulliver, je me suis rendu compte, en travaillant sur Swift, qu'il y avait une... Et c'est là où on peut se dire que c'est quasiment les débuts de la science-fiction, que sans doute sans certaines avancées technologiques, et en particulier sur l'optique, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce récit-là. Alors, en deux mots, c'est qu'en fait, on a pas que ça hein, dans le voyage de Gulliver, mais on a le monde où il est grand et le monde où il est petit. Donc, en fait, il y a un basculement qui s'opère et qui va... Et ça, c'est assez traditionnel et révélateur des voyages imaginaires, c'est-à-dire qu'on va avoir... un point de vue qui va relativiser la perception du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que à la période à laquelle écrivait Swift, il y a une invention, vraiment il y a un travail Il y a des travaux très importants qui sont obtenus en termes de résultats sur l'optique. Les premiers microscopes, les télescopes, à ce moment-là, deviennent vraiment performants. Donc, si vous voulez, là, on a un outil technologique, et on va retrouver cette idée-là dans la science-fiction et d'une façon générale dans les mondes imaginaires. On a un outil technologique qui va être une sorte de catalyseur, pas que, hein, évidemment, je ne réduis pas Swift à ça, mais en tout cas sur ces deux points de vue-là. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il va y avoir une avancée technologique qui va cesser de se développer à travers les siècles, et qui va arriver à une première apothéose à la fin du 19e, en 1899, avec Röntgen sur l'invention de la radiographie, par exemple, on va rentrer à l'intérieur du corps. Et là, c'est pareil, pof, on va basculer sur des histoires où nos aventuriers de l'imaginaire vont pénétrer à l'intérieur du corps pour pouvoir, souvent en étant réduits, ou des petits poussés, parce qu'il y a même une histoire de petits poussés qui voyagent à l'intérieur du corps humain, qui a été écrite par un docteur, par exemple. Voilà, donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, on a des... Et c'est ça la science-fiction, mais qui ne relève pas forcément que du genre science-fictionnesque au sens réduit du terme, puisque voilà. Et donc, on va avoir des ouvertures comme ça, au niveau de l'imaginaire, dans lesquelles vont s'engouffrer les artistes, les créateurs, les littérateurs.
Et les scientifiques
aussi. Alors, parce qu'il y a un jeu d'aller-retour, en fait, qui est fascinant à étudier et observer, c'est-à-dire que les scientifiques vont être des starters pour des créations littéraires, mais aussi des écrivains qui vont eux-mêmes inventer des histoires de découvertes scientifiques, vont eux-mêmes être à l'origine de véritables découvertes scientifiques. Donc il y a un yo-yo comme ça, un aller-retour, un jeu de ping-pong entre le réel et l'imaginaire, qui nous dit que le réel et l'imaginaire ne sont pas étanches l'un et l'autre, surtout ne le croyez pas, et que les monstres hybrides existent vraiment.
Alors, excellente transition pour me tourner vers Gaby Martinez. Les monstres existent-ils vraiment? En tout cas, c'est ce qu'a cru celui que vous avez choisi de suivre, de découvrir après sa mort. Il s'agit de Jordi Magraner, qui était zoologue et qui croyait, dur comme fer, qu'il était capable de retrouver le Yéti dans les montagnes afghanes et du Pakistan. C'est bien ça. Alors, d'abord, pourquoi avez-vous eu envie de mener l'enquête autour du périple de cette personne qui semble, vu comme ça de l'extérieur, avoir eu un rêve complètement fou? C'était courir après une chimère.
Bonjour. Premièrement, j'essaierai de parler en français, plus ou moins, essayer quelques problèmes, Ivan m'aidera. La question de pourquoi Jordi est une casualité, réellement, j'arrive à l'histoire, j'ai écrit sur voyage, j'ai fait quelques romans, et aussi j'ai cru que la littérature peut te donner beaucoup de choses et peut te changer la vie. À moi, après 8 livres, ce livre m'a changé beaucoup de choses dans la tête et dans ma vie. Depuis 3 années, cette histoire m'a porté à développer des choses que j'ai pensé qu'elles étaient impossibles. Par exemple, mettre en risque ma propre vie pour raconter une autre histoire.